et beaucoup d'autres.
Tous nos concerts au 01 56 45 16
et sur concert.radiofrance.fr.
France Inter,
la voix est libre.
Et c'est l'heure de la Bassie, j'y suis avec Daniel Mermet. Il est en studio, son répondeur, lui, est sur le répondeur, voilà.
Et bonjour, c'est à nouveau Hélène du Repère du Conflant. Je viens d'avoir l'info, Groupama aurait fait un communiqué comme quoi ils enlevaient toutes les restrictions concernant leur domaine. Ça veut dire qu'on pourra à nouveau aller chercher les champignons, on pourra à nouveau se promener en vélo, en VTT, les pêcheurs pourront aller pêcher, etc., etc. Du coup, il me dit, le copain du Repère, du Conflant, il dit, bah, c'est super comme ça. On va faire la fête, ça va être festif, non, ça va pas être revendicatif, on va se réjouir. Merci, merci, merci. Allez, ciao, bisous.
Bonjour, merci à la Bassie, j'y suis d'exister, une des rares émissions qui raconte pas trop de salade. Je vous appelle parce que notre Assemblée Générale des Professeurs est en droit de retrait pour la protection des enseignants et des élèves. Depuis plus d'une semaine, au lycée Théophile Gautier, Paris 12e, nous avons rencontré plusieurs fois le rectorat. Nous n'obtenons pas le minimum du minimum des moyens nécessaires à travailler avec des enfants de plus en plus en difficulté, et ça devient insupportable. Nous ne pouvons pas continuer à travailler sous des menaces et dans des classes surchargées et en perdant les filets de sécurité que sont les moyens de surveillance nécessaires, les moyens médicaux et d'assistance sociale et d'infirmerie nécessaires à nous aider. On ne peut plus travailler seul en première ligne de cette manière-là. Ça devient dangereux. Le rectorat ne nous entend pas. Il continue à nous parler comme sous l'Ancien Régime, on va dire, avec arrogance et suffisance. Il continue à nous renvoyer à notre travail comme si de rien n'était, sans rien vouloir changer de ses conditions. L'insupportable a été atteint. Nous avons demandé une audience au recteur. Ceux d'entre vous qui veulent nous aider, appelez le directeur de cabinet du recteur à Paris et demandez que nous soyons reçus. 01 40 46 20 15. Merci du coup de main et on renverra l'ascenseur parce que tous ensemble, il faut que ça s'arrête. Bye.
Notre François cherche des sous. Et 30 milliards, ça se trouve pas sous le pied d'un cheval. Dans les valises en route vers les paradis fiscaux, là oui, mais va savoir, pour l'instant, il n'y a pas pensé. Alors il prend un tas de mesures, dont certaines, je l'avoue, me laissent perplexe. Une au hasard, il va taxer la bière. Personnellement, j'en bois pas. Mais enfin, c'est de gauche la bière. C'est la boisson du prolo. C'est ce qu'on prend avec les merguez à la fête de l'Huma. Moi, présidente de la République, je taxerai le champagne. Au passage, on récupérerait un bout de la valise Tétinger qu'a filé en Belgique. Allons François, reprends-toi. C'était Christine du Limousin.
Ouais, salut Daniel, salut. Ben écoute, j'ai très peu de temps pour parler. Hein. Excuse-moi, mais à Carcassonne, on est en ébullition là avec cette affaire de pogrom. Hein. Alors, et d'ailleurs, c'est aussi l'occasion de monter un repère de là-bas si j'y suis, à Carcassonne comme ailleurs, et puis un repère digne de ce nom. D'ailleurs, on donne rendez-vous à tout le monde devant le 44 rue de la République, devant la porte bien massive de l'immeuble, qui est quasiment en démolition, qui est devenu un squat pourri. Alors, il pourrait dans le squat y avoir des roms, hein. Pourquoi pas y foutre le feu et jouer avec les allumettes pendant qu'on y est. Hein. Comme ça, bon, ça fera pas un crime, ça sera rien, puisque ça a été fait sans violence, la saloperie qui a été faite. Alors bon, bah, on va pas laisser les petits rigolos en chemise verte, ou bleu, ou rouge, ou bleu, blanc, rouge, nous casser les couilles, quoi. Bon, voilà. Hein. Et puis, en tout cas, ton coup de gueule qui a duré une heure, là. Eh ben, écoute, chapeau, Daniel.
Allô, bonjour, c'est Marie-Yvonne de Ploumillot, anciennement Marie-Yvonne de Rennes, depuis pas longtemps, à Ploumillot, dans les Côtes d'Armor. Merci pour cette émission d'aujourd'hui, sinon j'ai l'impression de hurler toute seule devant ma radio, en entendant ce que j'ai entendu ce matin. Et en remerciement, voici un petit poème de Torino Ziegler, qui était l'ami de Tony Gatliff. Merci pour la musique de Gazzo Dillo dans votre émission. Ça m'a fort plu de la réentendre. Et voici un petit poème de Torino Ziegler qui dit la chose suivante. Je peux ici vous dire mon rêve, mourir en plein amour, mon âme s'approchant doucement, doucement d'une source fraîche qui est à l'origine de mon peuple. Vous savez, l'homme ne vit pas que de pain, mais aussi du chant d'un rossignol qui appelle les premiers souffles de l'aube. Le bruit d'un galop de cheval dans la nuit, ce galop me hante depuis mon enfance. Mais on a raison, mais quel sauvage, n'est-ce pas ? à lire aussi un petit livre de sa femme, Sterna Welsigler, paru en 75 aux éditions Le Hameau, et qui a fait de très beaux, très très beaux poèmes, qui s'appelle Roman aux Tziganes déportés. Voilà, merci encore pour cette émission, Daniel Mermet.
Oui, bonjour à tous. 17 personnes interpellées pour une histoire de paris frauduleux. 12 minutes de traitement hier soir sur iTélé. 80 000 personnes dans la rue pour réclamer un référendum et un peu plus de démocratie. Une minute de traitement sur la même chaîne. C'est bien, vive la démocratie, vive les informations et vive iTélé. C'était Pascal de Bourg-en-Bresse. Au revoir.
Et bonjour, merci à tous pour ces messages. Jamais les oreilles loin du front. Aujourd'hui, du front de gauche, vous allez voir aujourd'hui, puisque hier, dans la manif à Paris, parmi les gens qui marchaient à travers Paris, il y avait un certain Antoine Chao, il y avait une certaine Sarah Lefebvre, et un certain Gaylor Van Vimerche, c'est-à-dire l'équipe de la basse J'y suis, avec des micros, histoire de donner tort à cet auditeur, puisque nous allons passer une heure entière dans cette manif. Auparavant, je voudrais dire qu'on est un peu secoué aujourd'hui par le décès d'Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm est mort. Et c'était un ami de l'émission, un grand historien, comme vous le savez, pour qui nous nourrissions depuis des années, nous nourrissons depuis des années, un immense respect, une très grande admiration. On reviendra sur l'œuvre d'Eric Hobsbawm, sur les rencontres qu'on a eues avec lui, notamment lors de la publication de son œuvre maîtresse, L'âge des extrêmes, où il décrit ce 20e siècle. Mais beaucoup d'autres livres d'Hobsbawm sont à recommander, je crois d'ailleurs tous. Et c'est une lumière qui s'éteint, mais un homme qui s'éteint, mais la lumière continue évidemment de pouvoir nous éclairer très longuement. Donc, hommage à Eric Hobsbawm aujourd'hui et dans les temps à venir, dans les jours à venir, on reviendra sur l'œuvre de ce grand homme. Donc aujourd'hui, c'est un peu dans cet esprit, hein, la manif d'hier contre le TSCG, traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Entendez par là, traité de l'austérité. Ils étaient combien dans les rues de Paris? 30 000, 40 000, 80 000, 90 000. Évidemment, comme toujours, ces chiffres sont contestés, se contestent au fur et à mesure. Vous allez en avoir des échos dans cette heure qui vient, et aussi avec différents intervenants, des analyses avec Thomas Coutreau, avec Antoine Schwartz, qui a écrit il y a déjà pas mal d'années un ouvrage qui s'intitule « L'Europe sociale n'aura pas lieu ». Et il semble bien que c'était l'idée majeure, motrice, de ceux qui étaient hier dans ces manifs. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Le Café Repère d'Angers, si vous y êtes, vous donne rendez-vous le mardi 2 octobre à l'Arts Café, en compagnie de Thierry Brulavoine, ex-conseiller municipal de Saint-Nazaire et chroniqueur au journal La Décroissance. Tiens, on va se le faire à la Paul-Éluard. Sur l'asphalte étalé, sur les néons usés, sur les mains des guerriers, je lis son nom, Croissance. Sur les râles de l'envie, sur la peur de l'ennui, sur le viol de la vie, je lis son nom, Croissance. Sur notre course à rien, sur nos tas de trop-pleins, sur la misère au loin, je lis son nom, Croissance. À l'évidence, la croissance n'est pas la solution, mais bien le problème. Ou bien alors, chers AMG d'Angers, venez en débattre mardi 2 octobre à l'Arts Café, 66 rue Baudrière, à partir de 19h.
Bonjour à tous. Le troisième repère de là-bas si j'y suis à Ussel en Corrèze aura lieu rapidement, en fait le mercredi 3 octobre. Toujours à partir de 17h30 au bar Le Troubadour, place de la République. Nous allons discuter de la dette, quelle dette? Voilà, et a priori, les repères suivants auront lieu chaque premier mercredi de chaque mois. Merci, venez tous, venez nombreux.
Place de la Nation, 13h30. Il y a pas mal de drapeaux rouges et la marche contre le TSCG, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, va démarrer.
Salut, c'est Daniel Vermès, et là-bas, si j'y suis avec Gaylor, avec Sarah, avec Antoine, contre le TSCG.
Manifestation pour une Europe solidaire, non au traité d'austérité. Paris, dimanche 30 septembre, à 13h30, à Nation.
Règle de plomb, traité de camp, rejet complet du TSCG.
Bonjour, je vais prendre vous comme chanteur, parce que je vais prendre vous comme chanteur, vous étiez en train de chanter, j'ai trouvé que vous aviez un beau timbre de voix.
C'est gentil à vous, oui.
Comment vous appelez ?
Jean-Claude.
Jean-Claude, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, Jean-Claude ?
Parce que je suis citoyen conscient, parfaitement conscient de ce vers quoi on nous mène à coup de politique d'austérité à l'échelle européenne. C'est la catastrophe économique, la catastrophe industrielle et plus encore la catastrophe sociale.
Ah, vous êtes super pessimiste là.
Je ne suis pas pessimiste, je suis conscient de ce qui se passe et si je suis dans la rue c'est parce que je suis optimiste et je sais que le peuple lui est prêt à lutter. Et alors, c'est bien pourquoi je suis là avec lui.
Alors Jean-Claude, qu'est-ce que vous reprochez justement à ce traité européen, ce pacte budgétaire ?
Ben, c'est ce qu'on vient de vous scander, ce n'est pas une règle d'or, c'est une règle de plomb qui vont plomber totalement toute possibilité que nous ayons d'aménager des politiques économiques permettant de redresser en cas de difficulté justement nos propres économies.
Vous craignez la perte de souveraineté de la France en termes de, justement, en termes budgétaires.
Ce n'est pas que la perte de souveraineté de la France, c'est la perte de maîtrise du citoyen de ses propres institutions et justement l'impossibilité pour les élus du peuple de contrôler la politique nationale, qu'elle soit française, qu'elle soit allemande, qu'elle soit italienne, qu'elle soit grecque. Et comme il n'y a pas par ailleurs au niveau de l'Europe plus de maîtrise des politiques parce que ce sont des experts et des commissaires qui nous mènent par le bout du nez, eh bien effectivement il est temps que le peuple se révolte. Alors d'abord il faut bien avoir conscience du fait que la dette des États a augmenté après que les États aient sauvé les banques de la faillite la plus complète. Les premiers créanciers de cette dette ce sont les systèmes financiers, systèmes bancaires. Et maintenant que les États sont venus au secours des banques, il faudrait que les États imposent à la population la baisse des budgets sociaux. Vous remarquerez qu'il ne s'appelle d'ailleurs pas traité de solidarité, il s'appelle traité de stabilité. Donc il n'est pas question de rendre les peuples européens solidaires les uns des autres, il est bien question de les obliger à respecter la règle incontestable de l'inflation zéro. Le déficit public est devenu un prétexte beaucoup trop aisé et beaucoup trop facile pour imposer l'austérité et surtout pour imposer la baisse de la qualité des services publics et de tout ce qui permettrait justement à la population de redresser la tête.
Alors, on va se mettre dans la peau de François Hollande. Vous, Jean-Claude, vous êtes François Hollande. Comment vous faites pour essayer de réduire cette dette ? La dette française s'élève aujourd'hui à 1 800 milliards d'euros. Comment vous faites ?
Oui, alors, bon, d'abord, 1 800 milliards d'euros, évidemment, c'est une somme qui impressionne tout le monde. Mais enfin, il faut savoir que le Royaume-Uni, pendant 30 ou 40 ans, a vécu avec plus de 100% de dette publique par rapport à son PIB. Donc, nous n'en sommes pas encore là. Je vous rappelle que...
On a 90%.
Japon... Oui, on a 90%. Mais le Japon, on est à 210-220. Et personne ne s'en émeut. Donc, ça déjà, remettons les choses à leur juste place. D'autre part, pour réduire le pourcentage entre la dette publique et le PIB, il y a deux solutions. Réduire la dette en termes absolus, et l'autre, c'est favoriser la croissance du PIB. Je ne vois rien dans les politiques actuelles qui permettent de favoriser la croissance du PIB. Au contraire, ce qui fait qu'on va de spirale dépressive en spirale dépressive à des situations qui en sont encore plus graves après chaque coup de tournevis. Donc là, on ne sortira pas de cette excroissance de la dette par rapport au PIB. Au contraire, on la précipite. Donc il serait temps que les politiques écoutent un peu des économistes qui ne sont quand même pas les derniers des imbéciles, notamment ceux de l'OFCE, notamment Krugman, Stiglitz, Amartya Sen, qui disent tous qu'il faut arrêter. Il faut arrêter cette logique folle qui précipite les populations dans le désarroi. Et le risque au bout est grand que les populations se replient sur leur petite nationalité. Donc attention, je dis aux politiques, faites aux élus, faites attention. écouter le peuple lorsqu'il cherche une réponse et une issue, et de procurer lui une issue positive et pas négative.
Pour l'annulation de la dette, construisant des comités unitaires pour l'annulation de la dette. Venez rejoindre les comités pour l'annulation de la dette publique et l'annulation de la dette particulière. Seule la mobilisation unie des jeunes et des travailleurs permettra de faire...
On l'avait dit, aujourd'hui, dans les urnes et demain, dans la rue, et ben la rue, c'est maintenant. C'est maintenant, en cet automne, à Paris, ils étaient 80 000 hier, à manifester contre le TSCG, avec des arguments, avec de la détermination, avec une hésitation aussi, parce que c'était effectivement le peuple de gauche qui était dans la rue, le peuple de gauche, qui veut pas non plus faire le jeu de la droite, mais qui veut prendre la place de l'extrême droite, qui veut essayer de barrer le boulevard qui s'ouvre à l'extrême droite en luttant contre ce TSCG, une manif donc anti-TSCG hier. On le dit, on le répète, qu'est-ce que cette démocratie, quelle est cette démocratie qui fait que l'on vote un jour, de temps en temps, mais que lorsque les bureaux de vote ferment, nous sommes rendus à notre inexistence politique. Nous en sommes réduits pour ceux qui entendent agir sur le devenir collectif et individuel aussi, eh bien à la rue, à la pétition, à brailler dans les rues, alors que tous voudraient intervenir, s'exprimer politiquement, sans doute dans d'autres conditions. On en est réduit à cela pour l'instant. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand la démocratie ressemblera à ça, à des marches dans les rues, à des hurlements envers des gens à qui nous avons conféré les pouvoirs et sur lesquels nous n'avons plus beaucoup prise. Alors hier, bien sûr, on se demandait, mais est-ce que les Verts sont là ? Les Verts se manifestaient pas trop. Est-ce qu'il y a dans cette manifestation des socialistes ? La gauche socialiste est-elle présente ? Peut-être, mais c'était à titre individuel. Enfin bref, c'était une première étape pour la gauche de la gauche. Hier, donc, manif anti TSCG.
L'euro, c'est la monnaie, pour concurrence, c'est le dollar, pour les renards de la finance,
ou les abats sans conscience, ça change rien à ton ghetto, faudra toujours se le béto, l'économie de nos pays est partie bien loin de but.
Attention, messieurs, dames, on va commencer deuxième tour, référendum
gratuit. Ça parle monde et ça s'évente, ça s'enrichit de grands slogans et ça s'oriente dans la vente en oubliant la vie des gens ou en nous prenant en otage, loin des cultures et du partage d'un monde qui se voudrait plus sage, loin de l'amour et du visage, pourrait briser toutes les frontières sans devoir marchander son frère. Et à quoi bon s'unir pour être plus fort si l'on s'enlise dans ces temps. On
a parlé d'Europe sociale, mais on a eu une banque centrale. Ils veulent combattre l'Amérique
sur le terrain économique. De la fusion, fonds de pension, ils construisent notre prison. Et pour l'Afrique avec la peau, c'est qu'ils n'auront pas d'euro. L'euro, c'est la monnaie pour concurrencer le dollar. Pour les renards de la finance, ou les amas sans conscience, ça change rien à ton ghetto.
Tu vas payer! Tu vas payer!
Vous avez beaucoup trop dépensé! Regardez-le comme il a dépensé!
Le peuple à genoux! Nous avons décidé, nous la Troïka, de mettre en vente l'Assemblée nationale! Avant! Poum!
On a une représentation de la Troïka avec trois grands masques noirs et des grands chapeaux, des hautes formes noires aussi, avec des prisonniers devant, enchaînés, l'uniforme rayé blanc et noir. Et sur ces chapeaux, pour la Troïka sont inscrits, FMI pour l'un, Union Européenne pour l'autre et BCE pour le troisième.
Allez, l'austérité à vie imposée par le traité, c'est ça la panacée.
Qu'est-ce qui se passe là?
La Troïka a décidé de rafler tout, mais tout, tout, tout. Pour permettre aux banquiers de s'enrichir, eh bien, ils ont décidé, avec un beau traité austéritaire, de pouvoir imposer l'austérité à vie à tous les peuples. Alors on va faire main basse sur les services publics, main basse sur les salaires, main basse sur la retraite. Et pour ne pas se laisser emmerder par la contestation populaire, on a décidé de faire main basse sur les assemblées nationales. Dorénavant, la Troïka a décrété que les budgets nationaux n'auront plus à être débattus par les parlements, mais devront être obligatoirement visés d'abord par la Commission européenne. Et s'ils sont bien conformes aux objectifs libéraux austéritaires de l'Union, alors les députés pourront s'exécuter et les voter. Voilà.
Et vous êtes qui, vous, alors? Expliquez-moi.
Bon, en fait, je suis Danielle Simonet, secrétaire nationale à l'agitprop du Parti de gauche et conseillère de Paris. Voilà.
Dans quel arrondissement?
Dans le 20e.
Alors, madame Simonet, j'ai un truc à vous montrer.
Oui.
À vous faire lire.
Alors là, je précise que si c'est ma voix, n'ayant pas lu le contenu, je vous lis quelque chose. Les Français ne seront plus vraiment libres de l'utilisation de leurs impôts. Et ce sont les choix dogmatiques de commission européens, ne dépendant pas du peuple, mais de lobbies financiers, qui guideront la politique de la nation. Alors, qui a dit ça?
Bah, c'est une bonne question, je vous la pose, à votre avis.
Ah, j'en sais rien. Peut-être quelqu'un qui manifeste.
Qu'est-ce que vous en pensez de ça, déjà?
Alors, les Français ne seront plus vraiment libres de l'utilisation de leurs impôts. Alors, c'est pas de l'utilisation de leur impôt, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus vraiment libres de la politique budgétaire et de à quoi on l'utilise. Mais ce sont les choix dogmatiques de commissions européens.
Les commissaires européens,
voilà,
ouais.
Qui ne dépendent pas du peuple, c'est vrai, puisqu'ils sont absolument pas élus. Eux, ils sont sous la pression des lobbies financiers. Et c'est eux qui vont donc décider la politique de la nation. Oui, je suis d'accord.
Alors, c'est qui a dit ça?
Ben, j'en sais rien, qui c'est qui a dit ça? Je suis sûre que c'est. Ça m'est encore une question piège, alors dites-moi.
C'est Marine Le Pen.
Oui, alors?
Et alors, moi, je voudrais savoir ce qui vous différencie d'elle aujourd'hui.
Alors, quelque chose énorme qui nous différencie d'elle, c'est qu'elle, elle est pour sortir de l'euro et elle est pour rester dans le cadre de l'État-nation. Nous, on est foncièrement pour une autre Europe. On est internationaliste. Et on pense que c'est la souveraineté populaire de chaque État-nation et la souveraineté populaire à l'échelle européenne qui doit décider des politiques publiques à mener. Voilà. Et par exemple, aussi, une autre différence très forte, c'est que Marine Le Pen veut faire croire au peuple que le problème, c'est l'euro en tant que tel et qu'il faut revenir au franc. Or, que vous soyez sous l'euro ou sous le franc, le problème, c'est est-ce que c'est les marchés financiers qui dictent nos politiques monétaires et économiques ou est-ce que c'est le peuple en fonction de l'intérêt général, social et écologique. Troisième chose qui nous différencie énormément, Marine Le Pen pense que foncièrement, le premier problème numéro un, c'est pas le banquier, c'est pas les riches cons, c'est soi-disant le rhum, le musulman, l'arabe ou le malien. Voilà. Et donc ça, c'est une différence fondamentale qu'il y a entre celles et ceux qui, à gauche, manifestent contre ce traité austéritaire et ceux qui sont simplement les valets du système, qui vont faire croire qu'ils sont contre ces politiques-là, mais qui foncièrement, dans leur repli nationaliste, ne veulent pas s'opposer au capital et à la finance. Mais par contre, il faut avoir conscience que, à imposer ces politiques d'austérité qui vont généraliser la précarité, on se retrouve avec des États-nations qui mettent en place des politiques de chasse aux pauvres et qui dédiabolisent les actes racistes. Et c'est ce qui a permis, bah, par exemple, que malgré la mobilisation contre le discours de Grenoble et la chasse aux sans-papiers, la chasse aux Roms contre Sarkozy, on a un gouvernement qui, cet été, a continué à détruire et expulser les Roms de leur bidonville. Et ben voilà, le fascisme, l'extrême droite et le racisme,
le pays dans la récession,
vont se banaliser si on laisse cette crise, avec ce traité austérité, enferrer nos pays dans la récession. C'est très très grave ce qui se passe.
Alors là, c'est le cortège des femmes en lutte contre l'austérité et la précarité pour une Europe sociale. Et il y a Marie-Georges Buffet qui est en tête de cette banderole, de ce cortège.
Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps.
Je suis capitalo
qui ferme nos usines, qui ferme nos hôpitaux. Non, 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 à l'austérité.
Non, 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 au TSG.
Donc on est avec vous, Thomas Coutreau, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes coprésident de l'association Attaque,
oui,
et également toujours économiste.
Tout à fait.
Et donc là aujourd'hui on est place de la Nation à Paris pour un grand rassemblement contre ce traité budgétaire européen. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ?
Bah, on sait très bien que ce traité vient officialiser et pérenniser ces politiques d'austérité qui ont été imposées depuis maintenant 2 ans à la Grèce, puis ensuite à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie, à l'Irlande, à la Grande-Bretagne, etc. Ce sont des politiques extrêmement brutales que le traité vient, pour ainsi dire, graver dans le marbre en interdisant définitivement tout déficit budgétaire et en obligeant les États à réduire leur dette publique à marche forcée. Donc on est là pour dire que cette politique ne mène à rien, ou plutôt qu'elle mène à l'effondrement de l'Europe, à une dépression, à un chômage historique, avec un risque majeur de montée de l'extrême droite et de déferlement d'idéologies nationalistes et xénophobes si la crise sociale continue à s'aggraver. Bah, les principales clauses sont celles qui prévoient l'interdiction des déficits budgétaires, donc pas plus de 0,5% de déficit structurel pour les États de la zone euro, et aussi l'obligation de réduire la dette publique, toute la partie qui dépasse les 60% du PIB, réduire cette dette publique de 1/20 par an, ce qui est considérable. Ça veut dire qu'il faudrait aujourd'hui, si on voulait suivre les recettes imposées par le pacte budgétaire, il faudrait un excédent budgétaire de 1% par an. Et non seulement pas aucun déficit, mais même un excédent budgétaire pour faire diminuer la dette. Donc ça voudrait dire des coupes budgétaires encore bien supérieures à celles qui sont en train d'être programmées par le gouvernement.
Il faut rappeler justement qu'il n'y a pas eu d'exercice budgétaire excédentaire en France depuis 1974.
Oui, mais de toute façon, un État n'a pas nécessairement à être en excédent. Il a besoin, souvent, les États ont besoin de financer les investissements publics, les dépenses d'avenir, pour pouvoir ensuite créer davantage de richesses et rembourser les emprunts. Ça n'est pas un problème, le déficit en soi, s'il sert à financer des investissements d'avenir. Aujourd'hui, on aurait vraiment besoin d'investissements publics massifs. Et aujourd'hui, on n'a pas cet argent. Les investissements publics sont en train d'être coupés dans tous les ministères. Donc on est face à une impasse complète du fait de cette dette et du fait de ces règles qui sont imposées par le nouveau traité.
Et vous qui avez travaillé sur la question du chômage, Thomas Coutreau, quelles seraient les conséquences justement sur l'emploi de ce traité budgétaire européen ?
Eh bien, le FMI a fait le calcul. Hein. Ce n'est même pas les économistes d'attaque, c'est le FMI qui a fait le calcul. Qu'est-ce que ça coûte en termes d'emploi de réduire de 1 point le déficit dans une période de récession? Le FMI a calculé que réduire de 1 point le déficit public, ça aboutit à réduire aussi de 1 point le PIB, et ça aboutit à créer 200 à 300 000 chômeurs supplémentaires au bout d'un an. Sans compter le fait que ça va enclencher, aggraver la dynamique récessive, hein, le cercle vicieux de la récession. Et au bout du compte, ça ne va pas réduire le déficit, ou du moins dans des proportions beaucoup plus faibles que ce qui était initialement souhaité. De toute façon, cette dette est impayable. L'idée qu'on va pouvoir rembourser petit à petit cette dette à l'aide d'excédents budgétaires en réduisant les dépenses d'éducation, les dépenses de santé, les dépenses de solidarité, les retraites, c'est une idée absurde. On n'arrivera pas de toute façon à rembourser la dette de cette manière-là. Les gens en France ne sont pas prêts à sacrifier l'État social et toutes les conquêtes sociales des 40 dernières années pour rembourser une dette dont on sait qu'elle a été contractée essentiellement dans l'intérêt de l'industrie financière, des couches les plus aisées qui ont bénéficié de réductions d'impôts et des grandes entreprises, et aussi avec la crise financière. Donc là, on ne peut pas payer cette dette, donc il faut le dire, nous le disons, toute cette partie de la dette est illégitime et doit être, selon nous, annulée.
Une fois Sarkozy parti, François Hollande fait comme lui, il nous demande pas notre avis sur l'austérité. Le nouveau traité, nous dessus on veut voter. Faut pas nous prendre pour des pommes, on va le rejeter. Lisez François Hollande, regardez par la fenêtre les Français venir à lui et crier ainsi: François, ouvre-nous ou la finance nous tuera. On veut un référendum, le changement pour de bon. Sarkozy parti, François Hollande fait comme lui, il nous demande pas notre avis sur l'austérité. Le nouveau traité, nous dessus on veut voter, faut pas nous prendre pour des pommes, on veut le rejeter. Réalisez François Hollande, regardez par la fenêtre les Français venir à lui et crier ainsi: François, ouvre-nous ou la finance nous tuera. On veut un référendum, le changement pour de bon.
Pour de bon.
Attention, attention, on a un avis de recherche. Pour rendre des comptes à la démocratie, Motif veut déposer le pacte budgétaire au mépris de ses engagements sans consulter les citoyens. On a une photo de François Hollande, il y a un avis de recherche là, bonjour.
Bonjour, Cécile du Parti de Gauche. Je suis très déçue par la tournure que prend l'Europe. Les parlementaires s'étaient prononcés avec des réserves sur le pacte budgétaire et on est en train de bafouer les instances démocratiques européennes. Il est urgent de manifester.
Vous aviez plus d'espoir en l'Europe avant ?
Oui, en 92, j'avais voté oui à Maastricht, je croyais encore à l'Europe. Mais là, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait un élan démocratique et que l'opposition européenne s'unisse pour être un rempart contre le libéralisme.
Donc vous croyez à Maastricht ? En 92, vous croyez à ce traité ? Il y a 20 ans ?
Oui, j'y croyais encore. Ouais. J'étais peut-être pas tellement avertie, mais...
Vous aviez quel âge il y a 20 ans ?
Il y a 20 ans, j'avais 20 ans.
Et alors, qu'est-ce qui vous donnait de l'espoir dans cette Europe qu'on vous avait proposée en 92 ?
Moi, je trouve que on s'est entrebattus, entretués pendant des siècles et des siècles. Et c'était une bonne idée d'essayer de s'unir. Et je crois encore à cette idée forte. Mais il ne faut pas que ce soit au mépris des populations qui sont mises en concurrence les unes avec les autres.
Et en 2005, du coup, vous aviez voté aussi ?
En 2005, j'avais voté non.
Donc vous étiez déjà déçu du coup ?
Ouais.
Et alors, vous vouliez quelle Europe aujourd'hui ? Celle dont vous rêviez il y a 20 ans, c'était quoi ?
Moi, je pense que c'est une Europe qui, du point de vue social, ramènerait tout le monde vers le haut. Il faudrait qu'il y ait, par exemple, un SMIC européen, mais qu'il soit au niveau des plus hauts SMIC en Europe. Il faudrait une convergence pour que les plus pauvres des pays européens atteignent les niveaux des États les plus riches en Europe. Et donc plus de solidarité entre les États. Il faut vraiment se battre pour qu'il y ait une intégration politique en Europe et pas avoir des réflexes nationalistes. Donc ça passerait sans doute par des luttes plus collectives. Là, si on prend la semaine dernière, on a eu des manifestations en Grèce, en Espagne, en Pologne, au Portugal. Il aurait suffi de choisir le même jour pour que ça ait plus d'effet. Et il me semble qu'il faudrait plus de coordination des mouvements sociaux en Europe. Mais il y a aussi le problème de la langue, de l'éloignement, donc c'est pas si simple que ça, quoi.
Vous êtes depuis combien de temps au parti de gauche, du coup ?
Depuis la campagne présidentielle
de Jean-Luc Mélenchon, voilà.
Et oui, manif hier donc à travers Paris contre le TSCG. On va rencontrer dans cette manif Antoine Schwartz. Antoine Schwartz est un chercheur qui sociologue à l'université de Nantes et qui étudie l'histoire des idées politiques, mais surtout les questions européennes. Et avec François Denord, il est l'auteur d'un bouquin sorti en 2009, « L'Europe sociale n'aura pas lieu ». Et dans ce livre, il remonte aux origines de cette idée d'Europe qui est liée avec le plan Marshall, vous connaissez, vous vous souvenez, ce plan Marshall miraculeux, formidable, qui a permis à l'Europe et à notre pays de sortir de ses cendres après la Deuxième Guerre mondiale. Mais les dollars du plan Marshall étaient aussi investis pour permettre aux entreprises américaines de prendre des positions solides sur l'économie européenne. Et les auteurs citent David Rockefeller, l'un des dirigeants de la Chase Manhattan dans les années 50, qui disait « Le marché européen n'est pas sans charme, mais ce marché commun le part d'un authentique sex-appeal ». Donc on voit qu'au début, dans le berceau même de cette Europe, il y avait le libéralisme et la cupidité capitaliste qui était déjà là. Or, certains ont voté pour Maastricht, d'autres ont voté oui en 2005, etc., avec l'idée que oui, c'était bien de faire une grande Europe des peuples, putain, c'est vachement bien, nous sommes tous des Européens. Sauf que c'est pas ça qui se passe, c'est l'Europe, l'Europe de la finance, l'Europe du grand capital, l'Europe des greeds. On en parlera de notre série sur les États-Unis. Je rigole, mais c'est pas très rigolo. En tout cas, hier, c'est ce que pensaient beaucoup de ceux qui manifestaient à travers Paris contre ce traité. Et donc, parmi eux, Antoine Schwartz.
Alors là, on est sur le pont d'Austerlitz, on est à mi-parcours. Alors, Antoine Schwartz, vous avez coécrit le livre intitulé « L'Europe sociale n'aura pas lieu ». Alors, cette manif, vous en pensez quoi déjà de cette mobilisation ?
J'avoue que je trouve ça formidable, parce que c'est typiquement le genre de sujet dont on fait tout pour qu'on ne parle pas, qu'il ne soit pas débattu sur la place publique. Et quand même, c'est tout à l'honneur des forces politiques, syndicales, associatives, d'avoir tenté de politiser et de réussir, puisque cette manif est déjà une grande réussite, à politiser une question ardue dont on ne veut pas parler. Donc je ne sais pas si on arrivera à avoir ce référendum que l'on réclame, mais au moins, voilà, on montre que les vrais sujets, les vrais enjeux qu'il y a dans notre société, c'est quand même là aussi les questions européennes, ce fameux carcan des politiques néolibérale européenne, qui peut être mise en question, discutée et pas simplement imposée par force comme c'est le cas aujourd'hui. Je crois que beaucoup de gens qui sont ici sont des gens qui ont des convictions de gauche, quoi, qui se battent pour des idées anti-libérales, on dirait ça. Mais en même temps, on est tous frappés, je crois, stupéfiés par le côté, le passage en force, quoi. Il y a un déni de démocratie. Dès qu'il s'agit de questions européennes, maintenant, il y a un déni complet de démocratie. On réclame juste, en fait, un référendum, c'est-à-dire le droit de pouvoir s'exprimer sur un traité qui a des enjeux fondamentaux pour toute la population. Mais la stratégie, c'est de ne pas justement politiser cette question, de ne pas en débattre publiquement. Hein, les médias, je crois qu'on en a très peu parlé, si ce n'est pour dire que une frange des députés socialistes ou verts était contre ce traité. S'il n'y avait pas eu ça, mais je crois que la plupart des gens ne sauraient même pas qu'il existe et que c'est un sujet de discussion politique. Donc je crois que c'est à la fois un travail de politisation d'un sujet dont on ne veut pas discuter, et c'est une résistance finalement à ces passages en force, à cette manière de maltraiter la démocratie dès qu'il est question de l'Europe. C'est censé ne pas être discuté, et la classe dirigeante ne veut pas qu'on en discute.
Pourtant, il y a un antécédent, en 2005, il y a eu une sanction populaire de ce traité européen de 2005.
Exactement, on a le seul antécédent, mais c'est peut-être pour ça qu'ils veulent plus qu'on en discute, c'est que la seule fois où on par force, on les a forcés à en discuter, on a politisé cette question, ça a fini par un non et un rejet de leur bébé, le traité constitutionnel européen. Donc là, la classe dirigeante est assez intelligente pour savoir que moins on en parlera, mieux elle se portera à ce sujet. Mais ceci étant, ce qui est unique, c'est que c'est la première manif contre l'Europe libérale, quoi. Hein, on a eu en 2005 des tonnes de réunions publiques, on a beaucoup discuté cette question, mais on n'a jamais fait de manif pour dire non à un traité européen, quoi. Donc c'est un événement exceptionnel, je trouve. En tout cas, une première.
Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.
Texte officiel du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance.
Entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède. Si après, dénommer les parties contractantes, conscientes de leur obligation, en tant qu'État membre de l'Union européenne, de considérer leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun, désireuse de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte dans l'Union européenne et, à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques au sein de la zone euro, tenant compte du fait que la nécessité pour les gouvernements de maintenir des finances publiques saines et soutenables et de prévenir tout déficit public excessif est d'une importance essentielle pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble et requiert dès lors l'introduction de règles spécifiques, dont une règle d'équilibre budgétaire et un mécanisme automatique pour l'adoption de mesures correctives.
Ce pacte, là, il s'inscrit dans une longue histoire quand même d'un marché européen qui était peut-être dès le départ voué à représenter une Europe du capital à une Europe néolibérale.
Moi, je le pense clairement, quoi. Je pense que l'Union européenne est née avec le marché commun en 57 sur des bases qui étaient déjà des bases libérales, hein, avec l'idée d'un libre-échange, l'idée qu'il faudrait par la suite instituer la libre circulation des capitaux, une politique de la concurrence qui, par exemple, interdit à l'État de subvenir, de soutenir les entreprises. Où il y avait déjà d'emblée, en fait, ce qu'on essaye de montrer, c'est il y avait ce cœur libéral dès le marché commun, même s'il n'a finalement pu s'affirmer que dans les années 80, après l'acte unique de 86 et évidemment Maastricht, le traité sur l'Union européenne de 92. Et bon, ce qu'on a aujourd'hui, là, le TSCG, là, c'est rien d'autre que toujours le même fantasme qui était institutionnalisé dès Maastricht, celui du fameux 3% et 60%, hein, 3% de déficit et 60% d'endettement, qui ensuite sont devenus le pacte de stabilité, là, les fameux 3%, 60%, n'étaient pas, selon eux, respectés ou suffisamment respectés, puisque des États, notamment la France et l'Allemagne, par la suite, ne les respectaient pas. Et les mécanismes de sanctions qu'ils avaient imaginés pour forcer les États à les respecter n'avaient pas fonctionné. Donc le TSCG, à la base, rien d'autre que reprendre ce fantasme-là, qui est un fantasme de la finance, de l'orthodoxie financière, quoi. Reprendre ce fantasme-là, mais lui donner un pouvoir plus fort d'entrer en vigueur, hein, puisque maintenant, un des éléments essentiels de ce traité, ça va être le pouvoir de contraindre davantage les États à appliquer ces critères de rigueur. Pour eux, c'est pour ceux qui défendent cette Europe libérale, c'est une occasion extraordinaire, quoi. C'est un peu la stratégie du choc de Naomi Klein. Hein, c'est à un moment donné, t'as une crise exceptionnelle et il y a une bataille pour définir quelle va être la réponse à apporter à cette crise. Ben, la réponse de la classe dirigeante, c'est plus de rigueur et des mesures finalement de réforme, de compétitivité. Toujours sur ces termes un peu de technocrate, l'idée qu'il faut poursuivre des réformes qui visent à détruire les systèmes de protection sociaux, quoi, qui flexibilité du marché du travail, etc., quoi. Donc je pense que pour eux, c'est la stratégie du choc, quoi. On a une occasion unique de faire passer ce qu'on essaye de faire passer depuis longtemps, quoi.
L'Europe sociale n'aura pas lieu, mais en fait, l'Europe sociale n'a jamais été prévue, quoi. N'a jamais été dans les projets de construction.
Il y a une mythologie européenne, je pense, ça, vraiment, hein, tu vois.
Antoine Schwartz.
On raconte que l'Europe, c'est la paix, c'est l'amour et je ne sais quoi. En réalité, quand tu vas y regarder, voilà, il y avait le projet européen a été porté par des élites qui étaient très pro-américaines, donc, et qui s'inscrivaient dans une logique de guerre froide. Si on veut parler de l'influence américaine, c'est simplement comme ça. Pour eux, ils étaient dans une bataille de guerre froide et le projet européen serait un moyen de construire un bloc qui devait résister au bloc soviétique. Donc je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais en tout cas, voilà, ça s'est construit comme ça, quoi, dans ce mode de pensée. Donc si c'était l'Europe, c'est la paix, c'est une paix, mais de guerre froide qui va être pensée dans ce contexte-là. Et puis les gens qui portaient le projet européen étaient donc non seulement donc des pro-américains... parfois excessif, mais en plus c'était des gens qui étaient voilà, défendaient des idées de marché. Il n'y a pas eu de socialistes en fait qui ont défendu le projet européen. Et toute l'histoire et le drame, c'est que tous les socialistes français se sont ralliés au projet européen dans les années 80, quand François Mitterrand a décidé de faire du projet européen finalement la raison d'être d'un projet de gauche pour le Parti socialiste. Mais ils se sont ralliés toujours à des éléments qui n'étaient pas de gauche. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pu vendre l'acte unique, Maastricht, le traité d'Amsterdam, le TSCE, comme étant des avancées progressistes sur le plan social et économique, ce qui n'était pas. Donc leur seule argumentation, c'était, voilà, il faut, tant pis, on est d'abord européen, donc il faut faire avancer l'Europe, et un jour, elle deviendra sociale. Donc c'est soyez patients. Et c'est quelque chose qui est un raisonnement étrange. Tu dis, c'est faisons l'Europe aux conditions de nos adversaires pour espérer qu'ensuite, elle se réalise selon les critères que toi, tu es censé défendre, c'est-à-dire une Europe sociale. Alors, tu vois, on avait appelé le livre « L'Europe sociale n'aura pas lieu », c'est pour dire, il faut arrêtons les conneries. Là, vous avez construit une Europe sur des fondements libéraux. et vous prétendez que demain, par magie, elle va se transformer en une Europe sociale. Mais ça va pas dans le raisonnement, tu vois, c'est juste, il faut pas se moquer du monde plus que de raison, quoi.
Et du coup, le monde est dans la rue aujourd'hui, quoi.
Et le monde aime pas trop qu'on se fiche de lui, quoi, ça, je suis bien d'accord.
Ich habe eine große Brüse. Das ist Europa.
Ich liebe dich.
Das ist Europa.
La gueule, connard.
Ah, viva, 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 viva la viva. Viva, viva, viva. My cello is rich and rich. C'est la mondialisation de l'économie, la privatisation des profits, la socialisation des pertes. Das ist Europe.
Ich liebe dich.
Das ist Europe.
Allez, va manger, connard.
Das ist Europe. Hier, on marchait dans Paris contre Merkozy, contre le traité, le TSCG. C'est le nouveau nom, effectivement, de la même chose depuis bien longtemps, comme Antoine Schwartz vient de l'expliquer, lui qui est l'auteur avec François Denord d'un ouvrage de la coalition Raison d'agir. L'Europe sociale n'aura pas lieu. Réussite, cette manifestation. Il y a 80 000, ils étaient dans les rues. Intraitable contre l'austérité. Titre aujourd'hui, l'humanité. Le non au traité européen a retenti hier dans les rues de la capitale à l'appel de 60 organisations et du front de gauche. Et bien sûr, l'équipe de la Basse, j'y suis, était dans la manif.
Un jour de l'orientation.
Agence de
récession!
Agence de rotation! Agence de récession!
Investissons dans l'humain, pas dans la finance! On est avec le front de gauche pour cette manifestation et on marche vers la place d'Italie.
Solidarité!
Contre les traités!
Bonjour, François Delapierre!
Je suis secrétaire national du parti de gauche. Et j'étais directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon dans la récente élection présidentielle. Ils ont fabriqué un objet qui va se retourner contre eux. Ils ont fabriqué un texte dont la fonction principale est de dire non aux exigences populaires. Et dès que quelqu'un, quelque part, va demander quelque chose, on va lui dire « Ah ben vous savez, c'est pas possible parce qu'on est endetté. » Sous-entendu, vous êtes un peu responsable. Quand il y a une dette, chacun est coupable de cette dette-là. Et donc, chacun doit faire un effort. Alors l'effort, c'est d'accepter qu'il n'y ait pas de poste créé dans sa classe, qu'on ne soit pas bien soigné à l'hôpital, etc. Toutes les conséquences, je dirais, multiformes de l'austérité. Et donc, ils vont fabriquer malgré eux un objet qui va cristalliser le mécontentement, le sentiment, je dirais, d'impasse dans lequel nous met le libéralisme. Tous les gens à qui on va dire « on ne peut pas », parce que vous comprenez, il y a le traité européen », ça veut aussi dire « on ne peut pas à cause du traité européen ». Et comme il existera dans ce pays une opinion mobilisée contre le traité, qui sait ce que c'est, qui sait exprimer, qui lutte, qui va continuer pendant tout ce mois-là la bataille, on leur souhaite bien du plaisir pour arriver à faire avaler aux gens qui sont contraints de subir de tels sacrifices pour un texte dont on aura fait la démonstration que c'est un texte injuste, imbécile, antidémocratique. Donc voilà, c'est qu'une étape dans un grand bras de fer autour de la souveraineté populaire. Est-ce qu'on veut que ce soit le peuple qui décide ou les banquiers? Ça devrait normalement les faire réfléchir, parce que ici, je pense que 95% des gens qui sont là ont voté François Hollande au deuxième tour. Donc c'est quand même sa majorité qui est mise en danger par son passage en force. Mais comment ils reconnaissent que dans les gens qui l'ont porté au pouvoir, qui l'ont élu, il y a les deux opinions, et que les deux opinions peuvent s'exprimer, que ce n'est pas à lui de décider? Donc c'est pour ça qu'ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il n'y aurait pas de référendum, et c'est d'ailleurs ce que ce traité démontre. Ce traité prévoit une camisole qui s'impose au peuple et qui interdirait, il rêve, mais interdirait à un peuple mécontent ou qui déciderait de ne pas respecter les engagements du gouvernement précédent de le faire avec un système d'amende automatique qui punirait son État. C'est ça qu'ils essayent de fabriquer. Donc je pense qu'ils le savent, et je pense qu'Hollande le sait. mais il sait aussi que c'est des gens, la politique qu'il défend est une politique qui va l'amener à s'affronter avec une partie des secteurs de la société. Il ne cherche même pas à avoir un soutien des syndicats. La seule chose qu'il a essayé de faire politiquement en cette rentrée, c'était d'avoir, je dirais, l'amitié du MEDEF en se bousculant à son université d'été. Donc je pense qu'il, quelque part, il a fait le deuil d'un certain nombre de secteurs comme ça. Il se dit que les secteurs de la gauche, du mouvement, disons, ouvrier, syndical, traditionnel, il ne peut pas leur parler avec la politique qu'il s'apprête à mener. Bon. Donc il joue plutôt sur l'atonie, la démobilisation, une espèce de résignation. Et c'est ça qu'il essaye de produire. C'est tout à fait l'inverse de ce qu'il faut faire, parce que la gauche, elle a besoin d'implication et de mobilisation pour être forte.
Alors justement, Jean-Marc Ayrault, cet après-midi, s'est exprimé.
Si jamais
je et il a affirmé que le vote du Parlement sur le traité budgétaire européen était une étape essentielle et que manquer ce rendez-vous serait prendre une responsabilité historique.
Bah, il a raison, c'est que c'est historique d'avoir le Parlement de la France, le pays qui a inventé la souveraineté populaire en 1789. Et on pourrait le rappeler à Jean-Marc Ayrault, parce qu'à l'époque, pour voter une hausse d'impôts, il fallait quand même, malgré tout, tout roi, Louis XVI qu'il était, réunir les États généraux. Et quand il a fait ça, eh ben, il a découvert que le pays refusait de payer l'impôt et qu'un budget soit voté, soit décidé sans qu'il ait son mot à dire. C'est l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit que c'est aux citoyens de décider l'impôt et de décider l'usage de cet impôt. Donc c'est là-dessus qu'on revient. La souveraineté parlementaire sur le budget, la souveraineté populaire à travers les élus sur le budget qui est remis en cause par ce traité. Donc c'est un vote historique qui va avoir lieu effectivement à l'Assemblée nationale et une responsabilité historique que prennent les députés qui vont eux-mêmes renoncer à une souveraineté qu'on leur a confiée. On n'a pas élu les députés pour qu'ils confient leur pouvoir budgétaire à des instances non élues.
Alors, comment ça s'est passé, alors, cette manif ?
Ça a marché, hein ?
Vous venez d'où, alors, déjà ? Vous êtes au pied du car, là ?
De l'Indre, la Brenne.
Il y a des Brennes, il y a des... Le pays des mille étangs. C'est à côté de Châteauroux. C'est un endroit, c'est un peu comme la Brière. On appelle ça le pays des mille étangs, mais il y en a au moins 2000, en fait. Hein.
Alors, vous êtes venu en car, hein,
voilà.
Et vous vous apprêtez à retourner.
À retourner, à partir, à 5h15, 5h30, voilà.
Et puis, on va continuer, parce que c'est pas terminé, de toute façon. Hein.
C'est pas gagné.
Non, c'est pas gagné, de toute façon. Puis bon, même s'ils arrivent à le passer à l'Assemblée nationale, pour autant, on va pas baisser les bras, parce que l'austérité va continuer. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Donc, on va pas baisser les bras pour autant. Hein. On n'est pas tout seul, on l'a vu aujourd'hui encore. Hein. Puis bon, il y a en plus des gens qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons. Parce qu'en plus, ils ne sont pas tellement informés par rapport à ce nouveau traité, que nous, on appelle nouveau traité. Quoi, hein. Donc, c'est pour ça que nous, on demandait qu'il y ait un référendum et qu'il y ait un débat pour que les gens sachent véritablement de quoi ils retournent, parce que c'est le fond du problème. Quoi. Ils ont peur du débat. Alors, la démocratie participative, bon, c'est que des mots qui sont vides de sens, en définitif. Hein. On voit aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la démocratie, parce que nous, ce qu'on demande tout simplement, c'est effectivement le référendum, c'est l'application de la démocratie, pour que les Français, sur un sujet aussi grave que celui-là, c'est-à-dire la perte de l'indépendance de la France par rapport justement à notre budget, puisque en définitif, bon, ce sont les eurocrates de Bruxelles qui vont gérer le budget de la France, avec tout ce que ça peut comporter, donc l'austérité, comme vivent les Grecs, comme vivent les Espagnols et les Italiens, c'est l'objectif. Hein. Et ben, on voit où ça mène, dans le mur, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a des économistes quand même assez conséquents comme Stiglitz qui disent que l'Europe, en continuant comme ça, l'Europe va dans le mur. Hein. Enfin, l'Europe des peuples, parce que les financiers, eux, ils vont pas dans le mur. Eux, ils sont là justement pour continuer à s'enrichir, quoi. D'ailleurs, moi, j'ai pas regardé la télévision Ayrault l'autre soir, mais il y avait Fillon qui disait, nous, on va le signer dès demain. C'est notre traité, c'est nous qui l'avons pondu, le traité, donc, à partir de là. Alors, par rapport aux députés, nous, on s'adresse dans l'Indre à nos deux députés socialistes, qui ont été élus aussi avec les gens, disons, qui font partie du Front de Gauche et d'autres, parce que l'objectif, c'était de faire barrage à la droite, pour avoir une politique de progrès quand même, puisque bon, on peut attendre de la gauche une politique de progrès. Bon, la droite, on la connaît, on sait ce qu'a fait, mais bon, quand on se dit de gauche, on fait une politique pour ceux qui sont en bas, qui souffrent, hein, tout simplement. Alors donc, on va continuer le combat, parce que Bon, on n'est pas là pour baisser les bras. Puis bon, après, c'est l'avenir quand même de la jeunesse, du pays, parce que les jeunes, on a connu les emplois jeunes. J'ai un fils qui était un emploi jeune sur Limoges. À l'époque, j'habitais à Limoges. Mais il a fallu qu'il casse son emploi jeune pour se former. Hein. Donc, bon, là, c'est pareil. Hein. S'il n'y a pas une lutte, si on n'est pas vigilant dans ce domaine-là, bah, la jeunesse, leur avenir, ça ne sera pas brillant. Donc,
Alors, vos prénoms, c'est quoi ?
Jacques.
Jacques.
Et Dédé, tout simplement.
Vous faites quoi dans la vie ?
Tous les deux retraités, mais moi j'étais ajusteur mécanicien de métier, donc voilà, et puis...
Moi j'étais artisan, graphiste, décorateur.
On est ouais, tous les deux, on est coco, dire. Mais bon...
Personnellement, moi je suis communiste,
on n'est pas dupes. Hein.
Mais je connais qu'une expérience communiste qui vraiment mérite ce nom-là, c'est la Commune de Paris. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps.
Ouais. Allez, bonne route.
Ok, merci. Allez, au revoir, allez. Merci bien.
Merci, merci Jaco et les cocos pas dupes. Merci Antoine Chao, Sarah Lefebvre, Geller, Van Vimersch, merci... À tous, c'est Élise, Christophe et Pierrick Monsigny qui est à la technique aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Lilian Allôme, Antoine Chao, Chloé Sanchez et préparée par Pierre-Yves Bulto. Solène Cordy, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la base que j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et toute cette heure se résume à un seul mot, franc-tireur. C'est le titre de l'autobiographie des Eric Hobsbawm qui vient de disparaître. Réclame.
Chérie, tu sais qu'en tant que fonctionnaire, on a aussi droit aux chèques vacances.
T'es sûr?
Mais oui, les chèques vacances, c'est pour les fonctionnaires autant que pour les salariés. C'est valable pour toutes nos vacances et pour nos loisirs. Il suffit de les demander.
Ok, je sors les valises.
Pour vous, fonctionnaires, l'État élargit les conditions d'accès aux chèques vacances. Rendez-vous vite sur ancv.com pour calculer votre pouvoir d'évasion. C'était un message du ministère de la Fonction publique et de l'ANCV.
C'est sympa de revoir les anciens du lycée. T'as vu Marc ?
Ouais, il a monté sa boîte. Mais comme tout le monde, il cherche à faire des économies.
Qui m'appelle ? Je suis conseiller EDF Entreprise. J'aide les entrepreneurs à optimiser leur budget énergie pour faire des économies. On choisira ensemble des solutions énergétiques efficaces pour améliorer la performance de son entreprise.
Entrepreneur, rendez-vous sur edfentreprise.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Demain, on ne sera pas là et on fait grève. Demain, l'audiovisuel public fait grève et on se retrouvera à 14h devant le palais du Luxembourg à Paris. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Il est 16h sur France Inter.
La garde à vue de la compagne de Luca Karabatic a été prolongée aujourd'hui, mais l'animatrice de télé, Jenny Priez, a décidé de ne plus parler aux enquêteurs. Elle réserve désormais sa coopération au seul juge d'instruction, fait savoir son avocat. Au début de sa garde à vue, elle a avoué avoir parié pour son compagnon, le joueur de handball donc de Montpellier, Luca Karabatic, et frère de Nicolas Karabatic. À sa demande et avec l'argent de ce dernier, NRJ12, la chaîne de télé pour laquelle Jenny Priez travaille, a décidé quant à elle aujourd'hui de se la suspendre de l'antenne de façon provisoire le temps de l'enquête. Jenny Priez présente l'émission Le Mag. S'il n'y a pas de repreneur pour la coquerie du site de Florange en Moselle, ArcelorMittal y maintiendra son activité. La direction européenne du groupe le dit aujourd'hui. Ce matin en CCE, elle a confirmé la fermeture définitive des hauts fourneaux. Elle donne désormais 2 mois au gouvernement pour trouver un repreneur pour les hauts fourneaux et pour la coquerie. 629 salariés sont concernés par cet arrêt d'activité. À l'étranger, à 2 jours du premier débat télévisé avec Barack Obama, Mitt Romney s'en prend à son adversaire aujourd'hui. Dans une tribune publiée dans le Wall Street Journal, il dénonce la politique du locataire de la Maison-Blanche vis-à-vis du monde arabe. Il cite pêle-mêle la Syrie, l'Égypte et la Libye. Il appelle à une nouvelle stratégie pour le Moyen-Orient, sans toutefois donner de détails sur ses propositions en la matière. À propos de Syrie, au moins 18 soldats ont été tués aujourd'hui dans une embuscade sur la route de Homs, dans le centre du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il y aurait également une trentaine de blessés. Par ailleurs, de violents combats ont eu lieu ce matin dans les souks d'Alep aujourd'hui. Les souks sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le film anti-islam qui a suscité de violentes manifestations dans le monde arabo-musulman, la justice russe décide aujourd'hui d'interdire sa diffusion sur l'ensemble du territoire russe. La France et l'Allemagne n'enverront pas de troupes combattre dans le Nord Mali. Jean-Yves Le Drian et Guido Westerwelle, les ministres français et allemands de la Défense, le font savoir aujourd'hui. Paris et Berlin se contenteront d'apporter un soutien logistique à une éventuelle mission africaine. De son côté, Washington se dit prêt aujourd'hui à soutenir une intervention menée menée par des pays africains. L'enjeu actuel est d'empêcher le nord du Mali de devenir un refuge pour terroristes. Ce territoire plus grand que la France est contrôlé actuellement par des rebelles islamistes. Retour en France, l'adolescent qui a poignardé sa prof de mathématiques dans un collège de la banlieue de Toulouse en 2009 est jugé depuis le début de l'après-midi à huis clos par le tribunal des mineurs. Le jeune homme âgé aujourd'hui de 16 ans est poursuivi pour tentative d'homicide. La professeure frappée, elle, à la poitrine conserve toujours des séquelles physiques de l'agression. Il était le scénariste de films cultes et de séries tout autant. On l'apprend aujourd'hui, Claude Brulé est mort hier à l'âge de 86 ans. Il avait écrit notamment les scénarios de Paris brûle-t-il de René Clément ou encore celui des Arsène Lupin pour la télévision. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Addiction, voyage musical, pas banal.
Une émission musicale présentée par Laurence Pierre sur France Inter, du lundi au jeudi. De 23h15 à minuit.
Frissons, émotions, partitions. Tous les soirs, du lundi au jeudi, après le gros journal, 23h15, minuit. Addiction.
À écouter sans modération.
Sans modération.
Excusez-moi, mais il n'y a personne pour leur dire d'arrêter, là.
Oui, non.
Attends. Si ça continue, ça finira jamais.
Oui, enfin, en tout cas, il paraît que les informations, c'est pas vrai.
Et ils inventent tout ça juste pour qu'on écoute.
Alors ?
Et vous, vous en pensez quoi ?
France Inter, la voix est libre.
Et c'est parti Frédéric Loudéon, c'est pour vous maintenant.
Bonjour Laetitia Gaillet.
Bonjour.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Voici quelques jolis disques, tout neufs, vraiment très intéressants, très passionnants, tel ce disque de musique espagnole qui nous est offert par Guillaume Coppola et c'est Enrique Granados qui figure. Enrique Granados, compositeur espagnol, né en 1867 en Catalogne, précisément à Lérida. Son père était cubain, sa mère galicienne. Il est devenu très vite un brillant pianiste, il a étudié l'écriture aussi. Et puis manque de chance, il voulait entrer au Conservatoire de Paris, mais il a eu une typhoïde, donc il est resté auditeur, simplement. Enfin, il a appris quand même beaucoup. Et de retour à Barcelone, Granados a composé ses premières œuvres. Il s'est marié. Il a fondé une académie, une école de piano, en fait. Et puis, la fin de sa vie est tragique. On la connaît assez fréquemment, puisqu'elle marque les esprits, cette fin. On avait donné à New York, c'est Goyescas, une œuvre géniale dont il a fait un opéra, une œuvre pour piano au départ, qui s'appuie sur les œuvres de Goya. Et donc, à New York, un très grand succès. Il est invité à jouer à la Maison Blanche à la suite de ce très grand succès. Et puis Granados manque le vapeur, le bateau qui devait le ramener en Espagne. Il s'embarque sur le Sussex en direction de l'Angleterre. Et hélas, son navire est torpillé par un sous-marin allemand. Alors lui, il a trouvé place dans un canot, mais il se jette à l'eau pour sauver son épouse et tous deux sont morts dans les vagues. Fin tragique et prématurée de Granados. Et un grand auteur, on l'a appelé le Grieg espagnol. Pourquoi pas, en tout cas, il vaut mieux juger sur pièce et entendre par exemple son Fandango. Enrique Granados, tiré de ses danses espagnoles, c'était un fandango, sous-titré ou indiqué plus précisément Energico, et interprété comme il faut, très énergiquement, et avec beaucoup de poésie aussi dans le passage central, par Guillaume Coppola. Et voici un autre personnage qui a souffert physiquement, qui a eu de nombreuses maladies, c'est Ludwig van Beethoven. Et Beethoven, un jour, a été pris d'une sorte de faiblesse et on l'a envoyé pour prendre les os. Le docteur Malfatti, éminent médecin viennois, l'a